Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
Salut les amis.
Salut Alex.
Bon, ça va être chaud.
Tu m'étonnes, on reçoit José Dayan, la grande réalisatrice. Apparemment, elle fait peur à tout le monde. Non,
mais moi, comme je suis pas hyper courageux.
Mais je suis certain qu'elle est chouette, là, cette bonne vieille José.
Enfin, mais Guillaume, mais tu te rends pas compte, on la compare à Piala.
Depardieu, selon certains.
Oh. Il paraît qu'on l'a surnommé Néron.
Sa mère l'appelait Balzac.
Bah quoi, il était pas sympa, Balzac. Un peu long sur les descriptions, certes. Mais
c'est
sympa.
Pas la question, non. Mais si on fait une erreur, elle va nous.
Mais Charline, peut-être que tu devrais préparer les questions sans les réponses dedans.
Voilà, mais si s'en aperçoit qu'elle a la réponse dedans, à mon avis, va t'écraser son cigare sur le bras.
Mais c'est interdit de fumer dans le studio.
Mais on n'interdit rien, José Dayan.
Bah, Hippolyte, il la connaît sûrement, il va pouvoir nous aider.
Oh, Hippo, il a tourné avec.
Il prépare sa chronique sur elle, alors je peux te dire qu'il ne doit pas faire le fier en ce moment.
Oh là là, la pression.
Bon, attendez, les amis, c'est pas compliqué, on va la prendre dans le sens du poil, la Jacqueline Maillan. Là.
Mais Guillaume, fais un effort.
Quoi? José Dayan.
José Dayan, mais l'important dans ces cas-là, c'est de jamais montrer qu'on est impressionné. Ouais. Moi, j'ai fait comme ça quand j'étais face à François Bayrou.
Ça a marché?
Oui, et vous savez pourquoi? Parce qu'il n'est pas très impressionnant.
Ah oui, étonnant. Bonjour la France Inter, bienvenue dans notre Open Space, ce grand palais de la blague où a lieu aujourd'hui la restitution de l'actualité qui tient toute la France en haleine. Carlos Ghosn est de retour en prison. Les actionnaires de Nissan viennent de le révoquer après 20 ans de règne. Le patron a dévissé du toit du monde jusqu'aux geôles japonaises. Balzac aurait-il osé imaginer pareille chute? Quant à Madame Ghosn, elle en appelle à Emmanuel Macron, hashtag je suis Carlos.
Maman! Je crois que ça va être encore une année compliquée.
Les réalisateurs français sont inquiets. Le cinéma craint de devenir le dernier taxi dans un monde d'Uber, un hôtel à l'abandon dans l'univers Airbnb. Nous risquons de sacrifier nos fictions sur l'autel de l'ultralibéralisme, nous disent-ils. Et quid de la redevance télé que Darmanin veut supprimer? Qu'en pense l'ogre du service public?
Désolé, mais la redevance, c'est la redevance. Car si on n'avait pas la redevance, comment on se remplirait la panse? La formule est de moi.
Ça, on l'a bien senti. Il a fallu des décennies pour que les femmes criminelles deviennent des héroïnes de fiction. Aujourd'hui, on apprécie la photogénie de ces personnages. Et quand les femmes tuent dans nos films, il paraît que c'est toujours pour la bonne cause.
Pourquoi tu m'as dit toutes ces horreurs sur elle? Elle est adorable.
Adorable? C'est folle coche déguisée en Mary Poppins.
Vu ça pourrait être son genre, Mary Poppins. C'est une cougar, dans le fond.
C'est pas faux.
Alex Vizorek, bonjour.
Et puis elle s'envole, et donc ça, c'est pas mal. Bonjour, Charline Vanhoenacker. Et bien, belle équipe autour de la table, évidemment, aujourd'hui, 17h20. Celui qui est très remonté, car Guillaume Meurice a rencontré son idole ce week-end. Pablo n'a toujours pas serré la main à Gérard Larcher, ce qui explique qu'il l'a sans doute encore. C'est vous, Pablo Mira.
Salut, Alex. Ouais, salut, Charline.
Guillaume, je vous hais du plus profond de mon âme.
Alors aujourd'hui, on va parler de ceux qui sont souvent discriminés pour ce qu'ils sont. Alors on parlera pas des musulmans, des homosexuels, des trans ou des femmes. Attendez, c'est bon, il y a un problème de discrimination dans ce pays. On parlera des Roms, juste cette fois-ci.
Oh, on vous attendait bien là-dessus. À 17h30, celui qui donc ce week-end est tombé dans les ors de la République, Marianne, ne cache même plus son amant. C'est vous, Guillaume Meurice.
C'est moi, bonjour à tous. Moi, je vais vous parler d'Europe aujourd'hui avec des Français que j'ai rencontrés. Quel pays leur fait le plus honte dans l'Union Européenne?
La Belgique.
Ouais, on est tous d'accord. Une sorte de consensus, je dirais.
Attendez pas celle-là. Et à 17h40, celui qui a été dirigé par notre invité et qui en parlera, on aura donc un témoignage de première main d'un homme qui en est revenu. C'est vous, Hippolyte Girardot, bonjour.
Bonjour, moi j'ai un invité un peu spécial qui va venir en parler mieux que moi.
Ouh, une surprise, un personnage.
Oui. Une surprise.
C'est à vous, Charlie Vanhoenacker.
C'est à moi.
Connaissez cette émission.
C'est le moment où on demande qui c'est qui va ambiancer l'open space. Vous êtes.
José Dayan.
Pas de piège.
Charlie Vanhoenacker, Alex Vizorek.
Par Jupiter.
Bienvenue, José Dayan.
Merci de m'accueillir chez vous.
C'est nous qui sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui. On est impatients de discuter avec vous de tout, de refaire la société, le monde, et de parler de Capitaine Marlowe.
Et de Fred Vargas.
Alors, parce qu'il y a deux actualités. Capitaine Marlowe, c'est demain soir à 21h sur France 3. On va commencer par là. Et puis, il y a aussi adaptation d'un roman de Fred Vargas qui s'appelle « Quand sort la recluse ». Et ça, ce sera mercredi 10. Et puis la semaine d'après, le 17
sur France avril, 2.
Sur France 2, voilà.
Toujours service public.
Le vraiment... service public. Et d'ailleurs, service public. On va en parler tout à l'heure du service public. Capitaine Marlowe, d'abord. Cet épisode se déroule à Boulogne-sur-Mer, dans le milieu de la radio de nuit. On pourrait penser à Macha Béranger, par exemple.
Oui, on est Caroline.
Caroline Dublanche, exactement.
Ou, enfin, et puis Sophie Peters, enfin, à qui on veut, quoi.
Et en direct, une auditrice appelle et c'est le coup de feu. Alors, dans cette série, c'est bien sûr la série avec Corinne Maziero. Il y a Jeanne Balibar, Benjamin Biolay, Camille, Stéphane Debac, Victor Belmondo, entre autres. Capitaine Marlowe.
Et Michel Esco.
Et Michel Esco.
C'est un grand acteur de théâtre.
On va les citer, on va les citer tous tout à l'heure. Capitaine Marlowe, ça, alors, ça parle en ch'ti, ça prend pas de pincettes. L'héroïne, elle est brute de décoffrage. On se trouve en région, on est sur France 3 et c'est devenu la série la plus chic de la télévision française. Alors, c'est un retournement de situation inattendu ou c'est une logique ou c'est un peu marrant, c'est un...
Non, c'est inattendu, c'est amusant, ça me plaît bien. C'est chic si on veut.
Bah, tout le monde veut en être.
Et à la fois, c'est très populaire. Non, mais c'est chic parce que l'ADN de Marlowe, depuis le début, c'est d'opposer Corinne Maziero à un acteur ou une actrice très important. Et donc, en effet, c'est chic d'avoir dans une série de télévision des invités comme Gérard Depardieu, Isabelle Adjani, Hippolyte Girardot, Nicole Garcia, etc.
Vous avez déjà fait très
Jeanne
tôt.
Jeanne Balibar, Benjamin Biolay, Camille.
Non, mais ces gens-là ne viendraient que si c'était chic. C'est parce que vous leur assurez aussi d'avoir
Je ne sais pas. Je pense que Jeanne Balibar serait venue parce que je lui ai fait faire son premier film et qu'on a beaucoup tourné ensemble, précisément dans Balzac, où elle était la sœur de Madame Anska. Et non, Benjamin Biolay, moi j'avais envie de tourner avec lui depuis longtemps parce que je le trouve très talentueux. Et puis je reviens à Vargas. Je lui ai demandé de faire la musique de Quand sort la recluse et il a accepté de la faire. Et il a fait une musique magnifique. Voilà, Camille, je l'avais connue au Festival d'Angers parce que Jeanne Moreau m'en avait parlé en disant qu'il fallait absolument que j'en rencontre. Et elle était très talentueuse et c'est vrai. Voilà. Et moi, j'ai envie de faire des castings qui me plaisent.
Mais comment vous les composez? Parce qu'on a le sentiment que vous pouvez tout vous autoriser. Que vous pouvez tout imaginer.
Un film avec Isabelle Adjani, c'est un rêve.
Le précédent épisode, c'est ça, avec Capitaine Marlowe
qui a eu quand même une audience...
Ça marche pas mal.
Pas mal.
On peut le dire.
Et puis, là, je viens de terminer, il y a deux jours, un film avec Admérade. Et c'était voilà, je trouve que c'est amusant d'avoir ce rapport entre Corinne et tous ces acteurs et actrices qui sont si différents les uns des autres.
Il y a aussi un peu de sous-texte ou pas dans la composition du casting parce que Benjamin Biolay joue le rôle d'un photographe et son assistante c'est Camille, c'est deux chanteurs.
Oui. Et Balibar aussi finalement.
Et Jeanne Balibar aussi. C'est inconscient ou bien il y a un sous-texte?
Non. Ah, peut-être que c'est inconscient. Moi, vous savez, j'ai jamais été psychanalysée, donc j'ai peut-être beaucoup d'inconscient.
Vous êtes dans l'esprit des Français la grande réalisatrice de télévision, c'est-à-dire que ce qu'était Marcel Bluval avant, c'est-à-dire que vous avez fait trois films, mais c'est en télé qu'on vous connaît parce que vous avez des gros budgets, vous pouvez faire tout ce que vous voulez.
Des gros budgets, il ne faut pas exagérer.
Non, mais c'est. Gros
budgets, non.
Pour la télé, sans doute, oui.
Non.
Non, même pas.
Marlowe, c'est le budget de tous les téléfilms de la 3.
Eh ben, alors, comment ça se fait que justement cette télé.
Mange des frites.
Qu'est-ce que vous y trouvez de peut-être plus efficace, de plus direct
à
la télévision?
Moi, d'abord, je veux dire, j'aime tourner. Voilà. J'ai besoin de tourner. C'est une espèce d'oxygène.
Vous en tournez
dire.
Combien par an? Parce que c'est hallucinant.
5-6 films par an.
Ah ouais,
oui,
c'est énorme.
Et donc, le temps du cinéma ne me convient pas. C'est-à-dire avoir l'idée d'un film et attendre un an et demi pour qu'il soit financé, un an et demi après, il est probable que j'ai envie d'en faire un autre. Voilà.
Donc entre l'idée que vous avez et le moment du tournage, ça va très très vite.
Très vite, oui. Ouais. Très très vite.
Passer trois coups de fil, on vous dit oui ou non.
Voilà.
Et est-ce que vous avez encore des rêves? Parce que vous avez fait des grands auteurs, vous avez fait des récurrents, vous avez fait de la fiction pure. Est-ce qu'il y a encore des choses que vous aimeriez...
Oui, mais je vais faire justement pour France 2, en début 2020, une mini-série de 2x90 minutes qui est avec Isabelle Adjani et qui est Diane de Poitiers. Et ça me plaît beaucoup de revenir à une aventure en costume.
historique donc. Alors, parce qu'on a vu donc nous Capitaine Marlowe, moi c'était ma découverte, je connaissais pas, j'étais nul et on m'a dit que voilà, donc je suis ravi et c'était
c'est un must maintenant
je sais. On n'a pas pu voir le Vargas en 20 secondes, donnez-nous envie.
Mais pourquoi n'avez-vous pas vu le Vargas?
Alors ça vous arrangerez avec vos équipes autour de vous, mais justement donnez-nous envie de le voir.
Mais écoutez, d'abord moi je trouve que Vargas est un auteur absolument incroyable. Elle a un univers qui m'a séduit dès le début et que ses personnages sont si particuliers. Elle est toujours à la lisière du fantastique. Mmh. Il y a une intelligence dans ses livres. Il y a aussi des enquêtes qui sont si étonnantes. Parce que comment tenir deux fois 90 minutes en faisant une enquête autour de recluses, c'est-à-dire d'araignées tueuse en quelque sorte, voilà. Et j'ai eu la chance d'avoir les droits de certains livres de Fred Vargas. On en parlait tout à l'heure, de L'homme au cercle bleu en particulier. Et je suis très heureuse qu'elle ait accepté à nouveau que je puisse faire pour France 2 cette recluse, voilà.
Et j'ai demandé à
il faut quand même dire un truc, c'est que comme je pense que Vargas n'est pas n'importe quel auteur, j'ai demandé à Emmanuel Carrère d'en faire l'adaptation, voilà.
Oh, tout simplement, bien sûr. Avec un beau casting. Alors, c'est bien sûr toujours dans cette série Jean-Hugues Anglade. Il y aura aussi Sylvie Testu, Thierry Ancis
de la Jacques Spiesser, bien sûr, Spiesser,
Jacques Bonafé, il y aura Corinne Maziero et Pierre Arditi ou Christian Vadim et Issaka Sawadogo entre autres.
Absolument.
Et puis Capitaine Marlowe
et Jérôme Kircher.
Voilà, et Capitaine Marlowe, ce sera donc demain soir à 21h sur France 3, qui se termine par un petit clin d'œil à Ambroise Croizat. Donc ça, on devine que c'est Corinne Maziero qui met toujours un peu sa patte sur...
Ah mais elle met beaucoup sa patte, parce qu'elle a fait beaucoup de théâtre d'improvisation, et elle a beaucoup d'inventivité. Absolument.
Et on peut détecter quelle est la patte Corinne Maziero.
Ah mais bien sûr.
Tout ce qui est bien de gauche aussi. C'est...
Et du nord. Mais même plus que de gauche. Et moi je lui dis toujours, écoutez, comme je suis très démocrate, je laisse votre personnage penser comme il pense. Moi je suis royaliste, alors faut pas me gonfler. Voilà.
L'ambiance est bonne sur le tournage.
Très bonne. Délicieuse.
Ça, je pense qu'elle kifferait, Corinne Maziero. Les vents passent.
Ah oui.
Manu Chao, bah bien sûr.
Bah,
évidemment. Bon, lui dédie d'ailleurs, parce qu'on l'aime beaucoup, on l'embrasse.
On l'embrasse.
On l'embrasse.
Ce sonne dans les glaviots, un groupe punk de Normandie. On répète dans la grange tous les mardis et les jeudis. Quand au bout d'un quart d'heure, on a assez fait de bruit. On s'assoit dans le foin et on chante ce refrain. Si j'avais le portefeuille de Manu Chao, je partirais en vacances. On boit jusqu'au Congo, si j'avais le compte en banque que Louise attaque, je partirais en vacances, au moins jusqu'à Pâques. C'est beau la Normandie, comme le dit ma grand-tante Marie, mais si j'avais du blé, je partirais bien loin d'ici. Souvent les soirs d'été, je m'assois dans les champs de blé, je ferme doucement les yeux et j'écoute le pommier chanter. Si j'avais le portefeuille de Manu Chao, je partirais en vacances avec tous mes poteaux. Si compte en banque de Louise attaque, je partirai en vacances au moins jusqu'à Pâques. Si j'avais le portefeuille de Manu Chao, je partirai en vacances dans une superbe auto. Si j'avais le compte en banque de Louise attaque, j'irai en vacances, au moins jusqu'à Pâques. Moi aussi, si je pouvais, j'irais bien jusqu'au Mexique, boire de la tequila avec le commandant Marcos. Mais j'ai encore au moins 7 hectares à labourer. Je remonte sur mon tracteur et chante pour me donner du cœur. Si j'avais le portefeuille de Manu Chao, je partirais en vacances, au moins jusqu'au Congo. Si j'avais le compte en banque de Louise attaque, je partirais en vacances, au moins jusqu'à... Seul avec mes vaches, si j'avais le portefeuille de Manu
France Inter, par Jupiter. C'est José Dayan qui nous accompagne. Sachez que l'adaptation du roman de Fred Vargas, Quand sort la recluse, c'est mercredi 10. Et la suite, le 17 avril à 21h sur France 2, avec bien sûr un casting magnifique autour des enquêtes du commissaire Adamsberg de Fred Vargas. Donc, réalisation José Dayan pour l'entourer, Alex.
Eh bien, Guillaume Meurice, oui, c'est Pablo Mira, bonsoir, et Hippolyte Girardeau qui nous parlera de l'invité.
Hey, les enfants, c'est l'heure.
Pas ça.
Putain.
Pas ça.
Oh merde.
Pas ça.
Le journal de presque 17h17.
Rigolette s'organise.
Et on commence par les titres.
La femme de Carlos Ghosn en appelle à Emmanuel Macron pour qu'il fasse sortir son mari de prison.
Oui, il a sans doute confondu Carlos Ghosn avec Alexandre Benalla.
Ce matin, Édouard Philippe a présenté les résultats du grand débat à Paris sous la verrière du Grand Palais.
Et c'est marrant, le Grand Palais, c'est aussi comme ça que ma concierge appelle Édouard Philippe parce qu'elle ne le connaît pas toujours.
Ah oui, le grand, grand Palais.
Bien sûr. Il y a des jeux de mots, soyez vigilants.
Et malgré ça, il y aura des brèves.
Et oui, je vous présenterai aussi le résultat des brèves. Et il est plus que positif chez nos auditeurs, sachez-le. Commence donc par Carlos Ghosn.
Oui, il a été révoqué ce matin par les actionnaires de Nissan après 20 ans de règne.
Se faire virer comme ça du jour au lendemain, le mec, ça doit lui faire tout bizarre d'être traité comme un vulgaire ouvrier de chez Nissan.
On reste dans les grandes ce monde avec Emmanuel Macron qui recevra Theresa May mardi.
Oui, j'espère que Nicolas Dupont-Aignan ne va pas laisser faire ça. Franchement, il y en a marre de ces immigrés extra-européens qui affluent sur notre sol.
Partons du côté de Barcelone, oui, cette fois pour les municipales. Manuel Valls se situe en avant-dernière position dans les sondages.
Non, mais ça, j'aimerais vraiment savoir.
Quoi, si Manuel va bien?
Non, j'aimerais savoir qui est le dernier. Ouais, hein, pour être plus impopulaire que Manuel Valls, ça doit être quoi? Un ancien tueur en série, supporter du Real Madrid, qui déteste le flamenco et qui a la voix de Marlène Schiappa.
Oui,
je ne sais pas vous dire.
Passons au dossier Grand Débat.
Oui, alors qu'il présentait les résultats des contributions du Grand Débat, Édouard Philippe a replongé.
Et si j'insiste, c'est parce qu'il y a 3 mois, lorsque nous avons lancé... Je suis coutumier du fait. Hein. J'ai un passif très fort en la matière. Lorsque nous avons lancé le grand débat...
Le truc, c'est qu'après avoir lancé le grand débat, on a précisément l'impression qu'il a jeté le bébé avec l'eau du bain.
Et toujours à propos du débat, Laurent Wauquiez veut rendre de l'argent aux Français.
Ce qui n'est pas très compliqué, il veut juste se rabiboucher avec François Fillon.
Oui, venons-en à Christophe Castaner. Après ses propos sur les ONG qui, je cite, « ont pu se faire complices des passeurs de migrants en Méditerranée », le groupuscule d'extrême droite Génération Identitaire fait de lui un adhérent d'honneur.
Eh ben dis donc, dans une bonne période mon cri-cri, adhérent d'honneur à Génération Identitaire. 2 semaines après être devenu adhérent d'honneur au Macumba de Julien Lépin. Chapeau à lui.
International à présent, en Afrique du Sud, un braconnier a été piétiné par un éléphant, puis dévoré par des lions.
Oui. Ah, ça c'est bien.
Ça, c'est... Ah, ouais. On est tous d'accord. Chez les animaux sauvages appellent...
Ça c'est top.
Un homme sandwich pour les animaux sauvages.
Environnement. Pour lutter contre le réchauffement, un Néerlandais fait le tour du monde en voiture électrique.
Alors qu'il suffisait bêtement de rester chez lui.
Oui.
Évidemment.
Et
oui, j'essaie d'être vigilant quand même. Isère, en retard pour emmener le marié à son mariage, un conducteur est arrêté à 213 km/h. 213 km/h pour pas arriver en retard à un mariage. Ça aurait été quand même con qu'il arrive à l'heure à son enterrement, du coup.
Et la dernière?
Et la dernière, j'ai lu l'Est républicain et on peut lire ce titre terrible. Jusset, Gérard Larcher et Guillaume Meurice plantent ensemble un arbre de la liberté.
Oh, mon Dieu,
on les a vus rire ensemble. Ils ont fêté Marianne à deux. Meurice, démission!
Non. Heureusement, il a fait un discours.
Oui, il a fait un discours. Heureusement, il a lu. Bah oui, faut pas faire le con le week-end.
Ouais,
il a lu une lettre que Marianne lui aurait envoyée.
Parfois, quand je vois Christophe Castaner, Charles Pasqua me manque. On en est là. À propos de Charles Pasqua, en passe pour moi son ancien ami Gérard Larcher. GG, c'est pour toi. Attention. J'espère que sa retraite se passe bien. J'ai appris qu'il occupait son temps libre en animant une maison de retraite qui s'appelle le Sénat.
Ça rigole bien en haut de son week-end. Chapeau. Il a serré la main de Charles Larcher.
Guillaume, je ne sais pas quoi penser.
Il y a beaucoup de...
Oh, 17h26 sur France Inter, en compagnie de José Dayan. On va aborder ce premier sujet avec vous. Non seulement Carlos Ghosn a été de nouveau arrêté, mais en plus les actionnaires de Nissan l'ont révoqué de son mandat d'administrateur. Il promet aussi, Carlos Ghosn, une vidéo dans laquelle il balance tous ceux qui ont fomenté sa chute. Chute, vengeance, abandonné de tous. C'est balsacien. Mais tiens, au fait, à quoi ressemble la vie de Carlos Ghosn en prison? Extrait.
Hé, hey, vieille chiotte de mes deux couilles. Hé, hey, tu crois que tu vas me baiser? Tout autant que vous êtes, je vous pisse à l'arrêt. Approche, viens me chercher. Avec qui vous vous faites planer? Moi, je suis Tony Montana. Vous baisez avec moi. Avec moi, les champions. Qui est toujours là, hein?
C'est Carlos Montana dans Scarface, Brian De Palma.
C'est mieux.
Oui, c'est sûr. Vous qui êtes féru de l'univers balzacien, est-ce que vous trouvez que c'est galvaudé de dire que le destin de Carlos Ghosn, depuis quelques mois, ça pourrait être digne d'un roman de Balzac?
C'est un. Moi je pense que c'est plutôt digne d'un roman de Dumas.
Oui, il y a un conte de, il y a un côté
parce
conte de
Monte Cristo. Parce qu'il y a un côté, vous voyez, rebondissement permanent, oui. Voilà, donc c'est pas mal.
C'est vrai qu'il y a un côté absolument romanesque.
C'est très romanesque.
Cette
oui. Quel destin.
Oui.
Hallucinant.
Une ascension aussi forte, une chute aussi vertigineuse.
Feuilletonesque même.
Ouais,
tout à fait. C'est pour ça que je dis Dumas, oui.
Ouais, oui. Alors, Balzac, dans le Père Goriot, dit « Le secret des grandes fortunes sans cause apparente est un crime oublié parce qu'il a été proprement fait. » C'est vrai que dans la, le
mais
langage
courant...
Mais ça,
c'est formidable. C'est une très très belle phrase.
Oui, ça vous parle? Ça veut dire que derrière chaque grande fortune se cache un crime.
C'est pour ça que j'ai pas une grande fortune. Et je le regrette. Peut-être me mettre en quête d'un crime.
Pour ça, vous faites 5 films par an. Dites donc, ça bosse.
Ah ben, j'aime tourner.
Oui.
Voilà, ça n'a rien à voir.
Vous l'êtes ôté de tout soupçon. Carlos Ghosn, est-ce que c'est un personnage dans lequel il est presque impossible de s'identifier?
Écoutez,
parce qu'il il doit quand même être dans une souffrance quand même terrible. Et
alors, je pense qu'il est dans une souffrance terrible. Je pense que les prisons japonaises ne sont pas les. Je pense pas qu'il y ait les quartiers VIP là-bas. Je ne connais pas l'histoire de Carlos Ghosn parce que pour vous dire la vérité, je ne m'y intéresse pas beaucoup. Mm-hmm. Mais je pense qu'il a quand même un traitement épouvantable. Alors, le mérite-t-il? Je n'en sais rien. Oui. C'est peut-être parce qu'il y a un délit de faciès. Il a vraiment une sale gueule, quoi.
On n'avait pas pensé à ça, mais
les juges vont le dire. Ouais. Moment, je pense.
Oui, c'est pas
vous êtes moche, désolé.
Vous avez adapté beaucoup de romans à l'écran. Vous aimez la fiction romanesque. Est-ce que dans la réalité, il y a des faits de société qui vous inspirent aussi ou pas?
Une fois, oui. Mm-hmm. D'ailleurs, j'en ai fait un film. Puisque vous, je crois que vous parlez des femmes tueuses. J'ai
on
fait un
parler,
film
ouais.
pour France 2 qui s'appelait La tueuse caméléon, mm-hmm. avec Catherine Fraud. Et j'avais lu dans un avion, il y a quelques années, Courrier International, qu'évidemment je ne lis que dans un avion, bon ouais. bref. Et j'avais lu l'histoire de cette tueuse qui m'avait fascinée parce que c'était terriblement romanesque. C'était une Anglaise qui ressemblait à tout le monde, enfin c'était Madame Tout le Monde. Et elle jetait son dévolu sur une femme qui, elle aussi, était Madame Tout-le-Monde. Elle la suivait dans les supermarchés, etc. Elle s'arrangeait pour lier une espèce de relation avec elle. Elle sentait que cette femme était solitaire. Elle achetait un yaourt, etc. Bon, bref. Donc, elle devenait amie. Mm-hmm. Et il y avait une espèce de phénomène d'identification tel que elle tuait cette femme. Et elle prenait son identité, elle habitait dans ses meubles, dans son appartement, parce qu'elle savait que cette femme n'avait pas de famille, etc. Et comme elle était assez... transparente, elle allait travailler dans une usine à la place de cette femme. Et puis un jour, elle reçoit une lettre d'un cousin d'Australie qui dit « je vais passer ». Donc immédiatement, elle s'en va. Et elle recommence sa quête. Et ça a duré 30 ans. Mmh. Et c'est extraordinaire.
Donc à partir d'un article du Courrier International...
Alors ça m'a fasciné, j'ai absolument voulu faire un film là-dessus.
Et si on vous proposait la vie de Carlos Ghosn, c'est quelque chose qui vous amuse ou pas?
Non, pas du tout, parce que je trouve ça vraiment horrible. C'est à la fois il y a pas de noblesse, il y a pas de folie, parce que chez cette femme, la tueuse caméléon, il y avait visiblement un dysfonctionnement, une solitude, quelque chose. C'était même pas pour s'enrichir. Lui, non. Ça ne m'intéresse pas.
Et puis ce mariage à Versailles, c'est tellement pas chic, c'est tellement vulgaire.
Sympa à filmer, quand même. Avec Emmanuel Chien.
Et puis quel acteur
ça. Ah oui, alors ça.
Gilbert Mekki, j'y réfléchis un peu.
Vous voulez me fâcher avec lui?
Non. Vous avez fait jouer Rasputin.
José Dayan.
Ah mais Rasputin, c'est pas Ghosn.
Non, j'en sais pas. Peut-être qu'ils ont envie d'incarner quelque chose.
Oui, peut-être qu'un Rasputin, c'est plus mystérieux.
Ah, elle est dure sur le casting.
Hippolyte, il a une Twingo, il peut peut-être faire la tête.
José Dayan avec nous, et il est 17h31, et là, on aurait bien besoin d'un GPS pour ne pas se perdre dans ses yeux. Je parle de vous, Pablo Mira.
Je m'étais reconnu, oui.
Pablo, mon petit ange trapu, aujourd'hui, c'est la journée internationale des Roms.
Ouais, ma louloute, et alors, concernant les Roms, c'est l'occasion pour moi de tordre le cou aux nombreux préjugés qui donnent une image négative de tous ceux qui les détestent, car il faut bien l'avouer, les Français instinctivement n'aiment pas les Roms. De mémoire, jamais des êtres êtres humains ne s'étaient autant rapprochés du statut de chou de Bruxelles en termes de détestation. C'est simple, dans ce pays, en France, si à 50 ans t'as pas insulté un Rome, c'est que t'as raté ton racisme. Alors attention, je tiens à préciser que je ne suis pas du tout raciste envers les Roms. Moi-même, j'ai plein d'amis qui sont haïs par une majorité de Français. Oui, je vous considère comme un ami, Guillaume. C'est dit pour le reste de la saison. Mais je vous déteste quand même. Donc je vous disais, les Français n'aiment pas cette communauté. Pourtant, les Roms sont parmi nous depuis bien longtemps. Ils sont partis d'Inde pour finalement arriver en Europe au 15e siècle. Ce n'est que bien après qu'on a commencé à les haïr, environ 5 minutes plus tard après leur arrivée, lors de l'invention du violon, techniquement. Si au début, ils n'étaient qu'une poignée, les Roms, eh bien, selon Amnesty International, ils seraient aujourd'hui entre 10 et 12 millions en Europe. En revanche, le Maxim Nicol Institute évoque le chiffre de 800 milliards de Roms. Donc la réalité est sans doute entre les deux, aux alentours de 400 milliards. Concernant la France, en tout cas, au fil des siècles, les Roms ont beaucoup bougé. Il y a 100 ans, on les trouvait surtout dans le sud de la France, alors qu'il y a 10 ans, ils s'étaient installés durablement dans les cauchemars de Brice Hortefeux. Alors, Charline, comment expliquer un tel rejet? Eh bien, moi, je pense que l'une des raisons, c'est qu'il s'agit historiquement d'un peuple nomade, les Roms.
Non, Pablo, non, là, vous confondez avec les gens du voyage. Les Roms, eux, ils sont sédentaires.
Alors, un peuple sédentaire, oui, mais qui a toujours été plutôt nomade dans son propre pays, la Roumanie.
Non, plus Pablo. Non, les Roms, c'est pas des Roumains. Ouais. Enfin, pas que, je dis, il y en a, mais c'est une ethnie qu'on retrouve dans plein de pays, la Bulgarie, la Hongrie.
Ouais, bon, Charline, écoutez, hein, vous me laissez pas raconter n'importe quoi, moi, je peux pas bosser correctement aujourd'hui, je vous le dis. Alors, vous me laissez enchaîner les contre-vérités jusqu'à la fin de ma chronique, et après, ensuite, là. Oui, vous pourrez faire la promotion de mon spectacle.
D'accord.
Donc ce rejet, vous savez, ma louloute, s'explique par une trop grande différence culturelle entre nos deux peuples, mais aussi, il faut bien le dire, par le manque de volonté de s'intégrer des Roms. La Startup Nation, tu sens que ça les intéresse pas, les Roms, hein, parce que le géant chinois, c'est pas avec des reprises de Patricia Cass à l'accordéon qu'on va lui résister. Donc ils refusent de s'intégrer et ils préfèrent vivre en communauté, les Roms, depuis des années, ils se coupent de nous et puis rejettent sans cesse cette main qu'on leur tend en leur disant « Le charter, il est par là, les copains. » Donc ne leur parlez pas non plus de travail aux Roms, ils détestent ça. Et c'est normal hein, qu'ils en paient le prix d'ailleurs. À un moment donné, hein, quand on veut pas bosser dans la vie, soit on se retrouve marginalisé socialement, soit on devient auteur chargé des jeux de mots pour Alex Vizorek. Et au lieu de faire des efforts pour vivre comme nous, eh bien les Roms, qu'est-ce qu'ils font? Ils restent entre eux à faire la manche et puis avec l'argent gagné, bah, ils en profitent pour vivre dans les plus beaux bidonvilles de ce pays. Alors moi, je veux bien hein, qu'on aime bien l'atoll et tout ça, c'est sympa, mais la France ne peut pas intégrer un peuple qui ne partage pas au moins notre passion pour les murs porteurs. Ni même intégrer un peuple qui, pour exister, utilise systématiquement la carte de la victimisation. On est discriminé, on est stigmatisé, on est pointé du doigt par les citoyens et les pouvoirs publics. Non mais, insupportable cette vanité et cet égo là des Roms qui prétendent accéder au statut de nos musulmans. Pour conclure, malgré les efforts des ONG, les Français continuent de rejeter cette communauté, c'est comme ça. Et je vous le dis, j'ai beau réfléchir, je crois que personne en France ne sera jamais autant haï que les Roms. Et Autant pour moi, il y a un nouveau quart d'enfant de djihadiste qui vient d'arriver de Syrie. J'ai peut-être parlé un peu trop vite. Allez, salut.
Pablo Mira, vos phrases que vous les faites où en ce moment?
Au Théâtre de l'Œuvre. On a commencé la semaine dernière.
Vous dites ça de chez moi.
C'est vrai?
Vous passez à l'angle demain.
Oui, bah vous passez.
Ah bah bien sûr.
José Daillon avec nous, invité prestige sur France Inter. My tail, my timing, binding my heels. Soleil, Get Up Easy, Lee Fields and the Expressions sur France Inter. Vous écoutez Par Jupiter, c'est José Dayan, notre invité. Demain soir à 21h sur France 3, il y a un nouvel épisode de Capitaine Marlowe avec un magnifique casting, évidemment, comme à chaque fois, et Jeanne Balibar en femme de radio la nuit, avec une voix suave, tout comme la mienne, bien sûr. Benjamin Biolay, Camille, Stéphane Debac, Victor Belmondo, Emmanuel Michelet, Pauline Discrit, Michel Escaut, entre autres. Et puis, l'adaptation du roman de Fred Vargas, Quand sort la recluse, ce sera mercredi 10 et la semaine d'après, le 17 avril à 21h. Et là, ce sera sur France 2, car José Dayan, c'est le service public. On va en parler dans un instant avec vous. Mais avant ça, le meilleur, nouveau meilleur ami 2019 de Gérard Larcher, Guillaume Meuf.
Big up à Gégé. Moi, je vais vous parler d'Europe aujourd'hui en posant la question, c'est quoi être européen? Parce que les réponses varient pas mal. Si vous êtes Nicolas Dupont-Aignan, par exemple, docteur en flux migratoire, être européen, c'est être sénégalais, hein, techniquement, puisque dans sa tête, il y a 18 millions de migrants chaque année en Europe, ce qui nous fait environ 1 neurone par million de migrants pour Nico. Selon Hippolyte, par exemple, Hippolyte Girardot, l'Europe, c'est autre chose, c'est un aller simple pour Amsterdam, par exemple. On sait que Hippo est spécialiste des herbes aromatiques. Hein, on conseille d'ailleurs votre ouvrage, Hippo, comment bien sniffer du romarin, aux éditions Presse Universitaire Défense.
C'est connu.
Bref, je fais un petit peu de pub en même temps. Bref, chaque Français a vraiment une définition. Je suis donc allé à la rencontre des citoyens ce matin, devant les gares, hein, qui sont une porte d'entrée vers l'Europe. Allez, on commence avec une citoyenne. Est-ce qu'elle se sent européenne?
Plus ça va, plus on se sent moins européen. Et voilà.
Attendez, parce que là, plus ça va, plus on se sent moins européen.
Oui.
Donc moins ça va, moins on se sent plus européen.
Moins on se sent européen.
Par rapport à ce qu'on se sentait plus européen avant.
Voilà, exactement.
Compliqué, hein, c'est compliqué, il faut suivre. Hein. Soyez sur le coup, mais là c'est, voilà, c'est une expertise BFM. Ça vaut même un édito de Bernard Guetta, hein, petit ange du journalisme parti trop tôt. On pense à toi, gros. Et gros, c'est une expression, hein, c'est parce qu'il a pris un petit peu du cul depuis qu'il avale des couleuvres matin, midi et soir. Alors, faut-il plus d'Europe, plus large? Posons une question qui fâche, l'entrée de la Turquie, oui ou non?
Non, non.
Pourquoi alors?
Pour certaines de leurs convictions, déjà.
Lesquelles?
Disons qu'ils ont, je pense, une vie qui est totalement différente de la nôtre.
Vous pensez que les Turcs ont une vie si différente de la nôtre que ça?
Un peu différente, quand même.
À quel niveau?
Mais non, vous poussez le bouchon loin, là.
Je crois que je pousse le bouchon un peu loin. Je crois qu'il faut porter la question relou dans la plaie. En tout cas, là, on n'est pas loin d'un kebab gate. Hein. Ça sent le salade tomate-oignon, hein, ou comme on dit, fragrance de Pablo Mira. Alors, continuons avec cette dame, parce qu'elle semble avoir une expertise sur la Turquie.
Je pense que tous les pays du Maghreb ou Afrique ont quand même certaines convictions de la vie qui est totalement différente de tous les pays qui sont dans l'Union européenne aujourd'hui.
Mais est-ce que la Turquie est un pays du Maghreb ou de l'Afrique?
Bah, on ne sait pas trop. Un coup, ils se disent pays du Maghreb, puis d'un autre côté, ils se disent ah ben non, on est presque européen, voire même français.
Les Turcs, ils se sentent français?
Parfois.
Allez, fourbe, on reconnaît bien les Turcs. Non, c'est pour ça que j'arrive pas à différencier Erdogan de Nicole Belloubet. Hein, est-ce qu'on les a déjà vus dans la même pièce, ces deux-là? Hein, il me semble pas, ça commence à me faire flipper. Bon, en tout cas, l'Europe, on le sait, c'est la bonne entente avec d'autres peuples. Et la France, c'est la mixité, la terre d'asile, c'est les droits de l'homme.
On n'est plus chez nous.
Mais alors on n'est plus chez nous en France ou on n'est plus chez nous en Europe?
On n'est plus chez nous en France. Ils acceptent trop. Ils devraient rester dans leur pays. Ils prennent notre place. Pas raciste, hein, mais bon.
Ah, toujours important de préciser, hein, parce que ça arrive que des gens racistes aient la même opinion que la dame là-dessus. Alors, comme ça, on est sûr. Hein. Moi, j'aime bien quand c'est précis. Alors, continuons avec cette dame qui ne dit pas donc des choses racistes.
Si, c'est un peu raciste, mais bon, faut dire la vérité, parce que les gens ne veulent pas dire la vérité. Faut dire la vérité quand même, on n'est pas chez nous. Il y a plus d'étrangers que de Français.
Donc vous diriez que vous êtes un peu raciste?
Ah oui, moi je suis, enfin, de toute façon, à force de voir tout ça, de toute façon. Hein.
Ah bah vous êtes complètement alors?
Bah, les gens ne veulent pas le dire, faut le dire à la télé. Si tout le monde parlait comme moi, ben, ça irait tout seul.
C'est vrai que ça irait tout seul. On ne sait pas où, mais c'est vrai que ça irait tout seul. Enfin, disons que l'idée de la grande Europe, hein, construite sur le rejet de l'autre, on a déjà essayé. Ça ne donne pas que du négatif, hein, parce que je vous rappelle que la 7e compagnie au clair de lune doit beaucoup à l'Allemagne nazie. Hein, ça, José, vous qui aimez les sagas, oui, ça aurait été dommage de s'en passer. Autre série qu'on aime bien et qui concerne l'Europe, le Brexit. Et ça tombe bien, j'ai croisé un Anglais ce matin. Il a voté quoi?
J'ai voté Brexit.
Ouais.
Oui. Parce que j'ai vu toutes les choses en Europe, c'est plus grande, Il y a beaucoup de pays, beaucoup de culture, beaucoup de langues.
Est-ce que vous croyez à l'idée d'un peuple européen ?
J'habite en France.
Vous habitez en France quand même ?
Oui, oui. Ouais. Oui.
Est-ce que c'est pas un peu paradoxal ?
Oui.
Ah oui, c'est bien ce qui me semblait. Ouais, ouais, le gars, il est juste rentré pour faire sortir la Grande-Bretagne de l'Europe et hop, il est retourné vivre en France, tranquille. C'est l'équivalent du végétarien qui va à la chasse. Voilà, juste pour le plaisir. Il mange pas les animaux, mais il aime bien les buter. Sympa. Mais ce qui est surtout sympa avec les étrangers comme lui, c'est l'ouverture sur le monde, le mélange des cultures. C'est pourquoi sa personnalité politique préférée, c'est
Marine Le Pen, meilleure, je pense.
Ah, vous aimez mieux, ouais.
Oui, 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 parce que elle pense la France.
Vous n'avez pas peur que Marine Le Pen vous renvoie dans votre pays ?
Non, je reste ici.
Voilà, je crois que c'est un bon résumé de ce qui se passe aujourd'hui. Les Anglais veulent sortir, mais rester. Le Pen à la côte, chez les étrangers. Bref, on comprend plus rien. De toute façon, quand on entend Castaner dire que certaines ONG sont complices des passeurs, pas la peine de voter extrême droite, elle est déjà au pouvoir.
Merci Guillaume Meurice. Ben, tout ça ne nous rendra pas Charles Maurras. Il est 17h43.
On n'entend pas souvent cette phrase.
Ouais, c'est bon, c'est voilà, écoutez. Je m'intègre, hein, je m'intègre à la France.
C'est bien, c'est bien.
7h43 et c'est José Dayan qui nous accompagne jusqu'à 18h pour notre plus grand plaisir. On va aborder cet autre sujet avant d'écouter Hippolyte Girardot parler de vous. La réforme de l'audiovisuel va-t-elle mettre la fiction et le cinéma français en danger ? C'est ce que craint une vingtaine de réalisateurs qui demandent au président de ne pas faire basculer le modèle français dans l'ultralibéralisme. Les services mondialisés comme Netflix, Apple ou Disney s'affranchissent de toutes les barrières quand les chaînes françaises sont soumises à des tas d'obligations, mais un carcan qui garantit toutefois l'exception culturelle française. Et si la redevance était supprimée aussi, quelle serait la solution de la dernière chance ?
En fait, j'ai deux télés chez moi. Mais comme j'en avais marre de voir la sale gueule d'Ardisson, des vieilles vannes pourries d'Hanouna, des crétins de Ch'ti, et même des petits roquets là, qui viennent bouffer les mollets des politicards chez Quotidien, bah, j'ai constaté que cette rentrée télé n'apportait rien de neuf, hein, qu'on nous servait toujours la même soupe. Alors ben, j'ai décidé de fabriquer mes programmes moi-même. Alors dans la petite là, bah, j'élève des lapins, et puis dans la grande là-bas, bah, des poules. Bah, du coup, ça fait des programmes instructifs, assez émouvants, et puis parfois rigolos. En plus, ça me rapporte des œufs.
C'est un extrait de Groland, bien sûr. Heureusement, il nous reste José Dayan, Capitaine Marlowe, et les adaptations de Fred Vargas. Mais justement, donc l'autorité de la concurrence, on a l'impression qu'elle veut faire sauter ce carcan, qu'elle risque d'inspirer la nouvelle loi audiovisuelle. Le modèle français, il doit faire face à Netflix, Apple, Disney, etc. Est-ce que cette crainte, notamment soulevée par Claude Lelouch ou Costa Gavras dans une tribune dans le JDD ce week-end, est-ce que vous aussi, vous avez vraiment cette crainte d'une nouvelle loi audiovisuelle, d'autant qu'on entend Darmanin dire tiens, si on sucrait la redevance.
Moi, je pense que il y a rien de meilleur que la concurrence. Voilà. Je pense que c'est très important. On peut se frotter à diverses cultures et moi, ça me paraît essentiel qu'il y ait de la concurrence. Bon.
C'est un stimulant pour vous, vous voulez dire ?
Je crois, oui. Ouais. Et en revanche, la suppression de la taxe audiovisuelle, si cette suppression n'implique pas le fait qu'il n'y ait plus de subvention pour le service public et qu'il y ait un autre mode de subvention, ça m'est indifférent. Si simplement c'est un début pour affamer le service public, ça m'inquiète. Pas seulement pour moi.
Oui. Vous vous engagez dans ces discussions,
non.
Dans ces combats ?
Vous n'êtes jamais engagé dans.
Vous n'êtes pas du genre à signer les tribunes.
Non. Moi, je vous dis encore une fois, j'aime la fiction. La réalité m'angoisse. Voilà.
Et dans le service public, vos fictions, elles sont diffusées sur France 2, sur France 3. Vous faites partie de ceux qui ne rencontrent pas d'obstacles pour les financements ou pour le fait qu'on vous donne la possibilité de faire ce que vous faites.
Écoutez, moi je touche du bois, il y a du bois ici.
Oui, bah c'est la table. Hein,
il y a la tête d'Hippolyte.
ça dépend. Il y a sûrement certains projets qu'on pourrait me refuser. Et si j'y tiens absolument, j'irai les proposer ailleurs.
Mais le service public en tant que tel, que ce soit justement le soutien au cinéma ou cette maison magnifique dans laquelle on est, ou la télévision, est-ce que c'est quelque chose auquel vous tenez ? C'est quelque chose qui...
Ah oui, moi je pense que c'est bien le service public, je pense que c'est nécessaire, c'est même indispensable. Mais je pense qu'il y a vraiment de la place pour... bien que la concurrence m'angoisse. Vous voyez, demain soir on verra, parce qu'il y a beaucoup de chaînes, la TNT, etc. Mais c'est la vie.
Est-ce que vous regardez la télé ? Beaucoup ?
Oui, la nuit.
Ouais. À la nuit ?
Ah oui.
Qu'est-ce que vous regardez ?
Ah ben je regarde surtout des films et des séries américaines ou étrangères. Je regarde Netflix aussi, voilà. Donc
Capitaine Marlowe, ça pourrait être sur une chaîne privée, vous pensez ?
Je pense, oui. En tout cas, je pense pas que ça puisse être beaucoup vendu à l'étranger parce que c'est tellement particulier français.
Ouais.
À moins qu'on puisse trouver un équivalent, je ne sais pas, moi faisant un capitaine Marlowe en Italie avec une capitaine de gendarmerie qui serait napolitaine et voilà et qui débarquerait à Milan ou à Turin, ça pourrait être drôle, pourquoi pas. Voilà.
En tout cas, ce capitaine Marlowe, il est tourné à Boulogne-sur-Mer et ça donne rudement envie d'y aller.
C'est très joli,
la lumière est magnifique. C'est demain soir, hein, 21h sur France 3, service public de la télévision française. José Daillon avec nous, à côté de vous, un individu que vous avez fait tourner.
Un individu, oui.
Hippolyte Girardot.
Mais je suis obligé d'inviter quelqu'un pour en parler beaucoup mieux que moi.
Il y a une chapka.
Salut José. Ah, ma José, dis donc.
Il y a une chapka.
Les gars, sans elle, c'est pas la peine, il n'y a rien. Hein. Rien du tout. Le capitaine Marlowe, c'est elle. Voilà. Moi, je suis haut-parleur, je suis l'interprète, hein, comme dirait Guillaume. Moi, je rajoute ma sauce, je change des mots, je mets l'accent, je tis, je mets le cerveau, le Lénine de cette bombe télévisuelle. Je vais leur faire la leçon. Parce que les gauchos de France Inter, là.
On va faire Néron encore.
Néron, tiens, voilà, exactement, le Néron, c'était. Alors, les gauchos de France Inter, je vous explique, vous n'allez pas lui faire un costard en papier chiffon, hein. Parce que sinon, t'as tous mes potes Black Bock qui déboulent et qui transforment ton studio en réplique de Beyrouth. D'accord ? Parce qu'elle a inventé un truc, José, avec ce feuilleton. Déjà, moi, je préfère feuilleton à série parce que, un, c'est anti-américain, et tout ce qui est anti-américain, c'est bon. Et deux, parce que feuilleton, ça se monte pas du col, ça rappelle ces histoires publiées chaque semaine dans les journaux au 19e siècle. Et pourquoi elles étaient publiées ? Parce que c'était moins cher, beaucoup moins cher que les bouquins. Les bouquins, c'était cher à l'époque. Donc, feuilleton, c'est popu, Marlowe, c'est popu, et révolutionnaire. Et je vous explique à vous les gauchos, subventionnez-la. Comment que ça marche cette affaire de révolution ? Parce que c'est pas facile. Vous prenez le truc qui marche le mieux à la télé française, c'est les polars. Pas trop noirs, pas trop sociaux, avec des meurtres bizarres dans des endroits respectables, et vous y glissez un héros moderne. Le héros moderne des dernières années, la femme flic. Et le coup de génie de cette histoire de Marlowe, c'est d'inventer une flic qui est pas trop classique. Pas genre flic au boulot, mère de famille le soir, tu vois. Plutôt une femme qui s'habillerait comme un mec, qui aurait une voiture, deux mecs et une vie perso totalement inconnue, ou presque. Voilà, une prolo du ministère de l'Intérieur. Et plutôt les mains dans le cambouis que dans les couches du petit. Et qu'on va appeler comme un des privés les plus célèbres du cinéma, Marlowe. Ah, oh, une femme Bogart, mais quelle bonne idée. Ça, c'est du féminisme.
Marlowe, c'est pas mon idée. L'appellation de Marlowe, c'est Elsa Marpeau. Non, mais rendons à César.
Rendons à Elsa Marpeau, mais tout à fait. Mais rendons à tous les scénaristes. À
rend
toutes les Néon. Petites mains, la vérité, quand même. Mais ça, c'est du féminisme, c'est beau. Et l'autre coup, c'est de ce feuilleton, la soirée la plus courue du PAF. Être invité dans un épisode pour un acteur ou une actrice, c'est la légion d'honneur de la profession. Un César, un 7 d'or, mais c'est de la blague. En fin de 5 jours, à côté de ma tronche en chapka, sans déconner. Parce qu'un selfie avec Corinne Massiero, ça se met à côté de la photo avec le Che. C'est un sauf-conduit politique. Faut imaginer un selfie de Castaner avec Éric Drouet, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais plus personne lui en voudrait d'aller en boîte de nuit. Tout le monde s'en foutrait. Une bonne histoire policière, avec une actrice en parka et en chapka, qui a pas fait le cours Florent, qui va chercher la petite bête chez les bourgeois du cinéma, et qui la trouve et qui en profite pour leur balancer 2-3 marguerites, le tout avec un accent à couper au couteau, et ben c'est ça, la politique de gauche, camarade.
Ouais, ça va, on n'est pas au festival de Cannes non plus.
Bon, ça va, Corinne.
Pour pousser.
Merci, Hippolyte Girardot.
Bravo, Hippolyte.
Et hommage à Corinne Maziro. C'est vrai qu'on repère sa touche, donc par exemple, dans le dernier capitaine Marlowe, le capitaine Marlowe demande à une policière, tiens, j'ai besoin d'entendre ta voix, parce que je voudrais l'utiliser. Et elle dit, bah, je sais pas, récite-moi la déclaration des droits de l'homme. Et puis elle lui dit, non, mais pardon, t'es flic, la déclaration des droits de l'homme, tu la connais pas.
Ça c'est Maziro.
Ah bah oui, on la reconnaît, on la lit entre les lignes. C'est un jeu. Moi, pendant Capitaine Marlowe, j'essaye de repérer les punchlines.
Alors ça, il y a un truc très très étrange. Moi, je suis pas du tout sur les réseaux sociaux, tout ça, c'est pas ma cam. Et on m'a dit que quand Marlowe passait, les gens s'envoyaient des tweets sans arrêt. Alors j'ai demandé à des gens qui étaient sur les réseaux sociaux de me les envoyer.
Qu'est-ce qu'ils s'envoient ?
C'est hallucinant !
Mais ils envoient quoi ? Qu'est-ce qu'ils disent ?
Des commentaires.
toutes les phrases.
Ah oui?
Elle a dit ça. Attends, elle va dire quoi? Elle fait quoi? Attends, mais elle est super. Mais t'as vu ce qu'elle a dit? Ah, c'est incroyable. Ah, oui. En fait, ils ne regardent plus le film. Ils sont dans
ils
un état de... Ils tweetent, quoi.
Bah, c'est le succès, voilà. C'est la rançon du succès.
Il y a de la chance d'avoir des tweets, alors dans ce sens-là. Il y a d'autres émissions où... C'est pas, elle est formidable.
Machin. Ah bon?
Ah ouais.
Écoutez, tant mieux.
Allez, non, laissons les réseaux là où ils sont. Nous, on est dans l'instant en direct sur France Inter. Et dans la fiction, quand c'est la femme qui tue, il paraît que c'est rarement gratuit. Elle le fait uniquement si elle a une bonne raison, comme la vengeance d'une agression subie ou autre, nous dit un article de Slate. À en croire que la femme ne peut pas être méchante et tuée par plaisir ou profit personnel.
Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue, elle a tiré la première. M'a touché, c'est foutu.
Marc Lavoine pour illustrer ce sujet, paru dans Slate. Donc, première question, José Dayan, la femme criminelle, est-ce que c'est particulièrement télégénique? Vous nous parliez tout à l'heure de la tueuse caméléon.
Oui, moi je crois que c'est télégénique, mais je pense en effet, en tout cas même si ça n'est pas toujours le cas, qu'il doit y avoir une vraie raison, quoi. Mm-hmm. Voilà, vous voyez, espèce de nécessité, si vous voulez, pour elle de tuer. Mm-hmm. Oui.
Alors, sans du tout déflorer ce qui se passe dans Capitaine Marlowe, il y a une phrase de l'article qui m'a fait penser à l'une des intrigues. Si les criminels à l'écran disent quelque chose de la vie des femmes, c'est parce qu'elles ont toutes et majoritairement été agressées, trahies, violées, soumises ou maltraitées au préalable. Les criminels sont construites comme des victimes qui réagissent contre des agresseurs. Elles tuent en réponse à quelque chose. Est-ce que ça arrive souvent? Est-ce que ça...
Mais ça, je ne sais pas. Encore une fois, je n'ai pas tué, donc j'ai pas de fortune, et je le regrette. Mais je n'aime pas du tout, en fait, la victimisation, si vous voulez. Moi, mm-hmm. je pense que si on tue, on tue, quoi. Mm-hmm. Et puis on dit pas c'est parce que j'étais malheureuse, etc., etc. Non, je pense que voilà, qu'il faut être en accord avec ce que l'on fait.
Un panache du tueur.
Mais oui, parce que si on n'est pas en accord avec ce que l'on fait, c'est qu'on a tort de le faire. Mmh.
Voilà. Vous travaillez aussi avec une scénariste auteure de polar. Quand c'est une femme qui fait le scénario,
mais
qui
il nous arrive d'avoir des femmes qui participent. Au départ, en effet, il y a eu, comme je vous l'ai dit, Elsa Marpeau. Et oui, mais il y a aussi des hommes. Non, il n'y a pas de sexisme chez moi.
Non, je me doute. Non. Mais est-ce que ça donne une couleur particulière, une épaisseur?
Mais par exemple, Une voix dans la nuit, demain soir, eh bien, c'est écrit par deux femmes. Emmanuel Michelet, et j'ai toujours oublié le nom de la seconde, qui a un nom très complexe, un peu portugais, presque rome, enfin quelque chose.
Ça vient nous aider, ça.
Alexia de Oliveira Gomez, me
voilà,
dit-on. Merci.
Alexia de Oliveira Gomez.
Merci Emma Ferret, merci l'équipe en régie. On est toute une équipe. Hein, briser la vitre en cas d'urgence.
Pour le film du lendemain, c'est Fred Vargas.
Eh ben oui, évidemment.
Donc
bien
c'est
sûr.
Une femme. Et alors là, je trouve, je ne sais pas, je pense que même si elle était un homme, elle aurait ce talent. Enfin, mm-hmm. Vous voyez, mais elle a une particularité qui n'appartient qu'à elle.
On va passer au sketch. Ah ben,
avec
vous en
pensez. Plaisir, bien sûr.
Moi, je voudrais un casting à la hauteur. En fin d'émission, on propose un sketch à l'invité pour jouer avec nous.
Ah
est-ce
bon
que vous acceptez un rôle? Et attention, on a quand même choisi un truc bien pour vous, la reine d'Angleterre.
Ah. Ah, c'est pas mal, moi je suis royaliste. Si vous
ah, bah voilà, ouais, bah voilà. Tapez dans le mille parce qu'il y a des.
Alors, c'est des trucs qui sont.
En rose. C'est le souligné en rose parce que, je sais pas si vous avez suivi ce qui s'y passait. Le prince William est soupçonné d'avoir trompé Kate Middleton. Ouais, avec une amie à elle.
Oh là, mais ça, c'est pas bien.
C'est
mais,
pas bien. Mais.
Non, mais moi je pensais. Vous, hein, moi je pensais que. On allait parler vraiment de la reine d'Angleterre et pas des...
Ah bah, vous allez être la reine d'Angleterre, ah, Charline et Kate, Guillaume et William, et je suis Charles.
Vous êtes Charles.
Moi, je suis qui? J'ai oublié.
Kate.
Ah, Kate. Comment tu as pu me faire une chose pareille?
Je te jure, c'est le chapeau de mémé que je ne recommencerai plus.
Qu'est-ce qu'il a, le chapeau de mémé?
pas le château, le chapeau. Et c'est juste qu'il n'est pas très discret.
J'en connais un autre qui n'est pas très discret.
Peut-on m'expliquer ce qui se passe?
William m'a trompé avec Rose.
Mais William t'a offert une rose. Qu'il est mignon.
Tu as tout compris, mémé.
Faudrait vraiment penser à lui changer les piles de son sonotone.
Comment ça, c'est l'automne? On n'est pas au printemps.
Ah si, et pour votre petit-fils, c'est toujours le printemps. Il bourgeonne.
Mais explique-moi tout, ma petite Kate.
Eh bien, il m'a trompée avec Rose, une de mes proches.
Quoi? La rose était moche? Mais il est pire que son père.
Il m'a trompée!
Il l'a trompé, mais il n'est pas pire que son père, il est comme son père.
Ah, enfin, elle raisonne.
Tu lui pardonnes? Bon, bah c'est très bien.
Ah ouais, c'est très bien, merci.
Je n'en
merci.
Peux plus de vous, je n'en peux plus de la vieille qui n'entend plus rien et ton père avec ses oreilles décollées, elle est belle, la famille.
Pardon ?
Le prince Charles n'a pas du tout les oreilles décollées.
Père, j'ai besoin de votre aide.
Mon fils, tu as tout mon soutien.
Je m'en serais douté, infidèle de père en fils.
Mais que vient faire là le foreign office ?
Mère, je me trompe ou vous n'êtes pas trop avec nous ?
Elle a toutes les raisons pour être contre vous.
Mais qu'est-ce qu'on a fait de mal ?
Une paire de jambes et ça vous excite.
Ah, le Brexit, ne m'en parlez pas.
Cette histoire avec la marquise, c'est quand même pas la fin du monde.
Et puis, qu'est-ce qui nous dit que tu ne fréquentes pas avec Giscard ?
Eh oh, c'est pas parce que Giscard, elle est Didi.
Moi, en tout cas, je n'ai jamais touché au Richard.
Au Ricard.
Et moi, je pense à Richard Cœur de Lion.
Ah oui,
je croyais lui.
Non, mais changez de texte, il y a
pas de problème. Je suis pas frolo. Le Ricard, c'est frolo.
Mon fils William est amoureux de Kate.
Bien sûr que je crois en Kate.
Une enquête. Et si on s'appelle au capitaine Marlowe.
Dites, vous êtes sûr qu'elle va bien, la Renmare?
C'est vrai que mamie déraille.
Pas autant que ton couple.
Merci, José Dayan. Capitaine Marlowe, c'est donc demain à 21h sur France 3, avec notamment Jeanne Balibar, Benjamin Biolay ou Camille. Et l'adaptation du roman de Fred Vargas quand sort La Recluse, ce sera mercredi 10. Et puis mercredi 17 avril à 21h. Et là, c'est sur France 2.
10 et 17. Hein.
Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup, mais José Dayan.
Merci de m'avoir accueilli.
C'était un plaisir.
Très charmant.
Bah, pas nous aussi.
Eh ben, on vous laisse le mot de la fin à propos de Carlos Ghosn. Tiens.
Je ne connais pas l'histoire de Carlos Ghosn. Mm-hmm. Il a quand même un traitement épouvantable. C'est peut-être parce qu'il y a un délit de faciès. Il a vraiment une sale gueule. Quoi.